31 ans que je fais ça, depuis le mois d'août.
Cette entrevue-là, je suis vraiment content de la faire. Pour vrai, là, ça faisait longtemps que j'avais hâte que ce soit à son tour, parce que je l'aime profondément, mon collègue. Je trouve qu'on l'entend pas assez souvent. On t'entend chaque matin, Vez.
Ben oui.
Mais
en principe.
Mais pas assez souvent pour moi. Ça va bien?
Oui, ça va bien.
Oui, je t'attrape tout de suite à la sortie du show. Là. Tu me donnes une heure supplémentaire.
On est réchauffé.
On est réchauffé. Oui. Mais parce que tu as deux emplois, toi, Vez, même si c'était à temps plein au FM 93.
Oui, ben en fait, un et demi, mettons. Parce que mon horaire me permet, j'ai le plus bel horaire du monde. Ça fait 31 ans que je fais ça. Depuis le mois d'août 88, je fais l'horaire du matin, l'émission du matin.
À la radio, c'est ça?
À la radio. Je trouve que c'est le plus bel horaire du monde. Écoute, en milieu de matinée, ma journée est faite, là. Alors, je peux faire ce que je veux après. Moi, je suis un gars qui bricole beaucoup. Je fais du sport.
On te voit à RDS aussi, des fois.
Et ça me permet aussi, justement, d'avoir mon autre demi-emploi à RDS, d'avoir une corde de plus à mon arc, puis de rendu des fins de mois.
Ben oui, mais c'est sûr.
C'est toujours agréable.
Dis-moi, est-ce que tu as toujours commencé à la radio le matin au sport?
Non. Ma première job à la radio... officiel, ça a été pendant 3 mois. J'étais à l'époque en journalisme à l'Université Laval. À l'époque, c'était une mineure en journalisme. Il n'y avait pas le bac en communication comme aujourd'hui. Et ça a été recherchiste pour André Arthur comme stagiaire pendant 3 mois.
Payé ou pas?
Payé. 75$ par semaine, 4 matins par semaine. Puis c'est entendu comme ça. Puis après 3 mois, c'est entendu que c'était terminé. Puis je suis sorti de là avec une lettre de recommandation signée par André Arthur. Puis ça m'a permis d'entrer à la radio. Je connaissais André parce que lui arbitrait au hockey et au baseball à Sainte-Foy. Je suis un gars de Sainte-Foy. J'ai fait du hockey, du baseball, joueur, entraîneur, arbitre aussi. Ça fait que je le connaissais bien, André Arthur. Ça fait que quand j'étais en journalisme à l'université, je l'ai accroché à l'aréna à un moment donné. Puis j'ai demandé, est-ce que tu prends des stagiaires des fois? Moi, je suis en journalisme à l'université, puis je me dis, ça pourrait être une belle expérience pour moi. Il dit, oui, je t'engage 3 mois. Puis ça a été comme ça, puis ça m'a permis après ça d'entrer dans une station de radio de façon officielle comme emploi. C'était assez cassé à Montréal aux Nouvelles.
Oui, puis c'est ça. Puis tu étais recherchiste après ça aux Nouvelles, mais pas nécessairement au sport.
Non, je n'étais pas encore au sport.
C'est ça. Mais ça a toujours fait partie de ta vie, là, le sport.
Absolument, j'ai toujours fait du sport depuis toujours.
Tu parlais de baseball. Je pense que tu as joué même professionnel.
Non. J'ai pas fait de sport professionnel.
Mais tu as voyagé pour ça. Là.
Oui, ben j'ai voyagé autant pour le hockey que pour le baseball. Quand tu parles professionnel, c'est parce que j'ai été jouer au baseball en France pendant un été.
Ben pour moi, c'est professionnel. Là, c'est pas au Saguenay.
On s'entend que c'est pas les mêmes salaires qu'au baseball majeur. Là.
C'est pas les grosses,
mais,
grosses
mais ça a été une superbe expérience. Je suis parti un peu de reculons, je vous l'avoue, parce que c'est mon frère qui a accroché sur un petit article dans le journal pour... on cherchait des joueurs québécois pour aller jouer et entraîner en France.
T'avais quel âge?
C'était en 86, j'avais 25-26 ans.
T'étais-tu déjà à la radio?
Oui.
OK.
Oui. Puis quand mon frère m'a parlé de ça, ça a fait non, j'ai une job.
Mm-hmm.
Après ça, il m'en a reparlé, j'ai dit non, j'ai une job. Puis après 7-8 fois, j'ai commencé à dire ben peut-être. Puis
pourquoi là, il poussait comme ça ton frère?
Ben je pense qu'il ne voulait pas partir tout seul. T'sais, il voulait vivre le trip, là. Mon frère était joueur aussi, je l'avais coaché junior majeur. Puis. Finalement, je me suis informé à la station de radio où j'étais pas encore à temps plein à ce moment-là, en 86, à CJRP. Puis j'ai dit, peux-tu prendre un genre de congé sans solde ou quelque affaire de même? C'est pour 5-6 mois, là, durant l'été, de la fin mars jusqu'au fin du mois d'août, quelque chose comme ça. On m'a dit oui. Ça fait que, OK, on va y aller. Je suis parti de reculons. Puis même après une semaine, là, je me disais, non, il faut que je retourne chez nous. Là. J'avais pas aimé le premier contact, mais après ça, ça a bien été.
C'était quoi, ce premier contact?
Ben, c'était le calibre de jeu. C'était
pas les Français, là.
Ben, peut-être un peu le choc culturel, effectivement, parce que je jouais en banlieue de Paris. Puis, tu sais, on s'entend que c'est pas le même beat qu'ici, là. Puis, surtout la façon pour eux d'aborder le baseball. Tu sais, c'est tous des adultes, c'était du baseball senior, puis pour eux, le baseball, c'était secondaire. Tu sais, évidemment, ils ont... Puis peut-être même tertiaire puis quaternaire, là. Je sais pas si on peut le dire de même, parce que, tu sais, avant le baseball, il y a le travail, il y a la famille, il y a le magasinage, il y a tout. Après ça, c'est le baseball.
Ah, oh, oui.
Alors que moi, j'avais été habitué ici, quand je coachais junior, puis quand je jouais junior, c'était ta principale préoccupation. Là.
Que ça, tu donnais pour ça.
Ouais. Même que après le premier entraînement, en fait, on venait de commencer l'entraînement, ça faisait une demi-heure. Là. On venait de finir l'échauffement du premier entraînement. Après 20 minutes, une demi-heure, une heure, il vient me voir. Il dit, excuse-moi, il faut que j'y aille. Ma femme m'attend pour aller faire du shopping. Je dis, hein? Pardon? Je dis, écoute, on joue notre premier match la semaine prochaine. Tu décides si tu pars ou pas. Je vais décider si lors du premier match, tu vas jouer ou pas.
Ben, je comprends donc.
On ne l'a jamais revu.
Il n'est jamais revu.
Puis c'était un bon joueur, apparemment. Je n'ai pas eu le temps de m'en rendre compte, mais apparemment que c'était un bon joueur. Ben non, lui, il s'est rendu compte que c'était trop demandant pour lui, la façon dont moi je voulais que ça marche.
Aïe, aïe, OK, mais ils étaient payés, ces gars-là?
Non, il n'y a personne de payé là-dedans, là. Moi, j'étais payé parce que j'étais entraîneur, mais pas cher, tu sais. J'étais hébergé, payé, mais eux autres, non, ils n'étaient pas payés.
Drôle de culture, je veux dire, comme toi. Là.
Ben, c'était comme ça le baseball à ce moment-là. Ça a beaucoup évolué, par contre. Depuis ce moment-là, là, ça a beaucoup, beaucoup progressé. C'est organisé de façon beaucoup plus sérieuse, le baseball en France, maintenant.
Tu ne regrettes pas, c'est une belle aventure.
Non, parce que j'en ai gardé des contacts, le fun. J'ai encore des amis là-bas avec qui je suis encore en contact grâce à Facebook, entre autres. Je suis retourné quelques fois en visiter quelques-uns. J'ai même été invité au mariage d'un de mes amis là-bas, comme témoin de la mariée.
Wow.
Non, c'est oui, absolument.
Okay, c'est des grosses amitiés en peu de temps, là, quand même. Là.
Absolument. Ben, j'ai été là 6 mois.
Ben, c'est peu. C'est peu
quand même.
Pour être témoin de la mariée.
Oui.
Vest, tu en parles souvent, puis même que les gens trouvent ça drôle de le ramener quand c'est le moment de le ramener. Mais t'es un bricoleur. Toi, t'as acheté ta maison, puis il n'y a pas une semaine où je t'entends pas dire je vais travailler là-dessus. Là. Mais ça fait des années que tu l'as. Fait que je me dis quand est-ce que ça va arrêter, ça, cette histoire-là?
Ben, ça va arrêter quand je serai plus capable de m'en occuper, j'espère le plus tard possible.
Qui t'a montré à utiliser comme ça?
Ça vient de mon père, assurément. Puis lui, ça vient de son père qui était bricoleur. Puis il fallait que tu saches te débrouiller dans les travaux ménagers, puis dans les réparations, puis les radoux, puis tout ça. Je voyais travailler mon père, puis il était extrêmement patient parce qu'il nous montrait comment tenir le marteau, comment tenir le clou pour pas qu'on se tape le dessus. Puis, puis il nous laissait aller. On y a pris goût, puis il nous l'a montré de la bonne façon. J'ai une couple de frères aussi qui sont assez bricoleurs. Ça fait que c'est vraiment, vraiment mon père qui nous a mis ça dans le sang.
Qu'est-ce qui te rend le plus fier que tu as fait de tes mains, par exemple?
Je sais pas s'il y a un truc concret. Je pense que c'est plus... Parce que quand j'ai acheté ma maison il y a 25 ans, une petite maison, c'est un vieux chalet, ça a été construit à la fin des années 40
avant
à Lac-Beauport.
C'est ça, avant que ça se développe
c'est
comme
ça.
On connaît actuellement.
Oui, ouais, puis c'est encore quasiment le cachet d'un chalet. Quand j'ai visité la première fois, c'était Arx, dans mes lettres là. Mais j'ai eu le flair, puis je sais pas comment où j'ai pris ça, mais j'ai vu le potentiel de cette maison-là. J'ai vu à quoi ça pourrait ressembler après un peu de temps, une fois que je vais l'avoir retapé. Puis c'est pour ça que je l'achetais. Je voulais m'acheter un jouet. Puis un investissement aussi, on s'entend. Puis ce dont je pense que je suis le plus fier... c'est mal dit, si on va recommencer. Puis ce dont je suis le plus fier, c'est... Ben là, pour pas rire parce que je l'ai...
Ça a pris 3 prises. T'as failli être hâte.
Mais non, je l'avais. Je l'avais, c'est toi qui es parti arrêter.
Oui, t'as raison.
Puis ce dont je suis le plus fier, je pense, c'est l'ambiance, c'est l'atmosphère que j'ai réussi à créer dans cette maison-là. Tout le monde qui vient chez nous me dit, c'est non bien chaleureux chez vous.
Ouais, c'est le fun.
C'est exactement ce que je voulais. Puis ça fait 25 ans que je suis là, puis je suis encore hyper bien. C'est l'endroit où je suis le mieux au monde chez nous.
C'est le fun. J'ai pas encore eu d'invitation pour goûter à ce chaleureux domaine.
Ben, ça va venir.
À Vez.
Ça va venir.
Parce que t'es aussi réputé pour la cuisine que tu fais.
Non, je suis réputé pour mes tartares.
Et ta sauce à fondue.
Ben oui, mes sauces à fondue, effectivement.
Mais
t'aimes ça. À fondue chinoise.
Ben, t'es un gourmand, t'aimes ça.
Oh, j'aime ça manger. Je suis pas un gourmet, mais loin de là.
Tu es un gourmand.
Oui. Trop, comme bien du monde. Mais je suis très traditionnel. Je suis pas un essayeux en cuisine. J'aime pas tout, loin de là. Mais j'aime le comfort food. Là.
T'es plus un souper à la maison qu'un souper au restaurant aussi.
Ça coûte beaucoup moins cher aussi.
Mais pas juste pour ça, parce que tu parles beaucoup d'ambiance. Puis il y a une tradition qui me fascine parce que j'aimerais prendre exemple sur toi. À chaque semaine, c'est le dimanche de mémoire.
Ouais.
Tu soupes avec ta famille.
Oui.
Des années plus tard.
J'ai eu la chance de tomber dans une sacrée bonne famille, une belle famille, puis ça a toujours été le dimanche, le souper en famille. Tout le temps. Même après qu'un tel est parti se marier, nanana, ben évidemment, quand il y en a eu qui étaient à l'extérieur, c'était plus difficile, mais le dimanche soir, c'est souper familial à la maison, tout le temps. Évidemment, chez mes parents. Là, mon père est décédé depuis une couple d'années. Ma mère prend de l'âge. C'est plus tough pour elle d'organiser le souper. Donc, quand ça arrive chez elle, ça arrive encore souvent. Là. On lui donne un coup de main. Mais bon, c'est souvent chez un de mes frères puis, ou chez moi de temps en temps aussi. Mais c'est le dimanche, c'est sacré.
C'est sacré, même si tu as une conjointe et tout dans ta vie, tu te dis, moi, ça ne changerait jamais.
Ben, les conjoints viennent, ils sont
c'est
invités, ça. Les conjointes, les enfants.
S'ils ont d'autres choses, ben, ils font d'autres choses, mais nous, on va se faire le dimanche.
Exact.
Qui est là?
Exact.
Tu disais ta mère, ton frère, toi?
Ben là, j'ai un frère aîné qui est décédé il y a une dizaine d'années. Donc, il me reste trois frères. Il y en a un qui est à Montréal qu'on voit beaucoup moins souvent, mais les trois autres frères, on se voit encore régulièrement avec ma mère, puis ma belle-sœur, puis mon neveu, ma nièce.
Tout le monde, c'est ça qui est fascinant.
Oh, oui. C'est des belles discussions, c'est une belle ambiance. Tu sais, oui, des fois, on s'obstine pas mal puis sur certains sujets. Ah non, sur le sport, on s'entend pas mal toujours.
Ouais, c'est ça. Ouais. Même couleur.
Ouais.
Même
ouais,
appartenance.
Ouais. Mais c'est des belles discussions. L'ambiance est le fun. C'est jamais lourd. Tu sais, ma mère est très risible parce que des fois, elle est gaffeuse, elle est dans l'une. Puis ça fait qu'on en profite. Puis elle aime ça. Puis ça la dérange pas pantoute.
Tu parlais de ton frère. Ça fait 10 ans, tu l'as dit.
Ouais. En fait, 13.
Bon, 13 maintenant.
Ouais, en 2006.
Qu'est-ce qui s'est passé et comment tu l'as vécu?
Il avait fait un AVC en 2003. Il est resté un peu paralysé, aphasique, donc assez handicapé. Mais puis c'était une bol, c'était l'intellectuel de la famille.
Okay.
Il était prof de marketing à l'université. Il a enseigné en Nouvelle-Zélande, en France, en Belgique. Il s'est promené, puis c'était une bol.
Grosse carrière,
ouais,
quand même.
Puis évidemment, cet accident-là lui l'a empêché de poursuivre sa carrière comme elle se déroulait. Il s'en est passablement bien remis, avec des séquelles, oui, mais il était redevenu assez autonome. Puis, 3 ans après, ben, il en a refait un autre qui s'est transformé en hémorragie cérébrale et en est décédé.
Oh boy, hein? Mm. Puis comment on vit ça au sein d'une famille qui est aussi soudée?
Évidemment, c'est un choc, c'est difficile, c'est lourd, il faut soutenir les parents surtout, là.
Oui, parce que c'est pas normal qu'un enfant quitte avant
parents. C'est pas naturel, c'est pas naturel, c'est... mais en même temps, je pense que ça a contribué à souder encore plus la famille qui était déjà très bien soudée. Là. Je pense que ça, si on veut ressortir quelque chose de positif, mais ça peut être ça. Le fait qu'on a pris l'habitude d'être encore plus attentif à nos parents à cause de ça, ben c'est resté avec les années.
Mmh. Puis après ça, il y a eu ton père. Puis t'en as parlé aussi à quelques reprises, comme quoi il a fallu... pas se battre, mais il y a des choses qui t'insurgeaient un peu, notamment le stationnement qui coûtait une beurrée quand tu allais visiter ton père à l'hôpital.
Ouais.
C'est des choses comme ça que toi, tu as à décrier, puis je te laisse le micro pour le faire.
Ben, ça nous amène à penser que l'idéal, c'est de mourir en santé, de pas avoir à être pris longtemps dans le système de santé avant de décéder le jour où ça va être fini. Tu sais, puis je veux bien qu'on me comprenne, c'est rien contre les gens qui travaillent dans le système de santé. Ces gens-là sont dévoués, ils sont efficaces, dans mesure du possible, puis ils sont attentionnés, ils sont gentils. J'ai juste des bonnes choses à dire de ces gens-là. Sauf qu'ils travaillent dans un système qui a pas de bon sens. Tu sais, puis ça fait en sorte que les bénéficiaires ont pas la qualité de vie en fin de vie qu'ils devraient avoir. Puis l'entourage aussi, les proches aidants, les familles de ces gens-là, mettons qu'on leur donne pas de break beaucoup.
Ça a été quoi vos impacts à vous quand vous le viviez?
Ben, tu sais, nous autres, on voulait bien aider, mais on comme bien du monde, on peut pas toujours être là. Tu sais, chacun y va selon ses disponibilités, donne un coup de main, présent pour mon père, qui avait ses petites habitudes, puis il y avait bien des petites affaires que les préposés ou les infirmières, je ne sais pas comment ça marche, là, auraient pu faire, puis ça ne s'est pas fait. T'sais. Mon père, il aimait bien ça, manger ses toasts le matin. On a demandé la permission, il a fallu que je voie la superviseure, là, je ne sais pas c'est quoi le nom du titre, mais pour qu'il puisse avoir un grille-pain dans sa chambre, on y apportait un pain, puis on demandait juste si c'est possible de faire deux toasts le matin, puis on amenait tout ce qu'il fallait, le beurre de peanut, tout était là. C'était jamais fait. Quand j'allais le visiter à 10h le matin, 11h, il n'y avait jamais eu ses toasts. La TV n'était jamais allumée. On y avait acheté une télé, elle n'était jamais allumée. Il ne pouvait pas se lever. Mon père faisait, il y avait des gros problèmes de pression. Puis, ça fait que c'était pas possible pour lui. Puis, il y avait des petits problèmes cognitifs aussi. Lui, prendre la télécommande puis l'allumer, non, c'était rendu compliqué pour lui. Là. Mais la TV n'était jamais allumée. Il était assis dans sa chaise puis il attendait que quelqu'un arrive.
Et pourtant, il avait besoin de cette aide-là. C'est un besoin qu'il soit à l'hôpital avec des infirmiers, des infirmières, des gens qui s'occupent de lui autour. Vous essayez le plus possible de lui mettre un bel environnement, vous donner le moins de troubles possible à ces gens-là qui travaillent.
Bien, c'est ça.
Mais c'est dans la finalité que c'était impossible.
Oui, parce que soit qu'il y a des messages qui ne se rendent pas parce que la façon de faire est trop compliquée, ou encore ils sont trop pris dans leur horaire, ils ont trop, tu sais, parce que je comprends qu'il y a une trentaine de patients sur chaque étage, là. Ils ne peuvent pas être partout, les préposés, puis ça, je le comprends, mais ça aurait été le fun que mon père puisse avoir ces petits plaisirs-là en fin de vie. Là, puis évidemment, pour l'entourage, comme on disait tantôt, le stationnement, dès que t'es là 2 heures, ça vient de te coûter 8$, même 16$.
Des fois, est-ce que tu te dis comment je n'irai pas aujourd'hui? Juste parce
parce que moi, on était à Québec, là, ma mère puis trois de mes frères, là, deux de mes frères puis moi. Puis ma belle-sœur, puis neveu, nièce. Mais tu sais, tu peux pas leur dire, ou même des cousins qu'on voit moins souvent, Raymond était au CHSLD, si ça vous tente d'aller le voir. Mais là, tu sais, tu leur demandes d'aller payer 16$ pour aller le voir. C'est pas, tu sais, c'est pas très invitant, là. Tu sais, effectivement, c'est malaisant un peu. Mais tu sais, puis moi, je réussissais à me stationner dans les rues autour, puis c'était moins grave, mais tu sais, quand t'es un proche, puis il faut que t'ailles payer 16$ pour passer 2 heures ou 3 heures avec ton proche au CHSLD, ça marche pas, là.
Oui, non, c'est sûr que sans être démotivant, c'est pas quelque chose qui va aller aider. Puis souvent, les gens sont seuls, ils meurent seuls, mais pourtant, il n'y a pas assez de ressources ou encore d'outils pour nous aider à aller les visiter.
Exact. Ouais.
Plus de freins.
Oui, il y a beaucoup d'irritants, mettons, on va appeler ça.
Oui, ouais. on va appeler ça irritant. Vez, on va retourner dans ta carrière.
OK.
Dans ta carrière at large, là, que ce soit quand tu étais recherchiste ou encore journaliste ou encore. Bon. Quel est ton plus beau souvenir en carrière? Tu sais, le moment où tu t'es dit, là, je travaillais pas. Là, j'ai eu du.
Hey, Seigneur, ça arrivait tellement de fois. J'ai rarement eu l'impression de travailler de un. J'ai toujours eu du fun à faire ce que je fais. C'est pour ça que je le fais encore d'ailleurs. Puis j'espère le faire encore longtemps. Moi, tant que je vais avoir du fun, puis si c'est jusqu'à 85 ans, puis j'ai la santé pour le faire, je vais le faire jusqu'à 85 ans. Tout le monde, tu sais, il y en a un paquet, là, je suis moins jeune que j'étais, là. Mais il y en a un paquet qui me dit, bon, as-tu commencé à penser à ta retraite? J'ai dit oui, j'y pense certain, puis je pense que je la prendrai pas.
Ah oui?
Parce que j'ai pas les moyens, puis deux, j'ai encore du fun à faire ce que je fais. À tous les matins, je me souviens pas d'un matin où je me suis levé, puis je me suis dit, ah non, un matin, ça me tente pas. Jamais. C'est jamais arrivé. J'ai eu la chance d'avoir toujours cette passion-là pour mon métier, puis d'avoir des gens autour de moi avec qui je travaille qui me permettent de garder cette passion-là. Quand tu travailles avec du monde que tu n'aimes pas ou avec qui ça ne clique pas, tu sais, tu n'as pas toujours le contrôle là-dessus. Ça peut faire baisser un peu la flamme, mais c'est jamais arrivé.
Ta plus belle époque, là, tu es en tête?
C'est dur de passer à côté de l'époque de la jungle pendant 11 ans. Qui a été le show le plus écouté à Québec, puis avec des grosses cotes d'écoute, puis on s'en fait parler encore aujourd'hui, puis ça fait 18 ans que c'est fini. Ça a fini en 2001. Puis on s'en fait parler encore, je te dirais, à toutes les semaines. Pas loin d'à toutes les semaines.
Pour vrai?
Oui. Puis j'écoute encore des extraits, j'ai gardé plein d'archives.
Tu retournes écouter ça?
Ah, ben oui. Régulièrement, puis
t'as pas d'autres choses à écouter?
Oh non, j'ai plein d'autres choses, mais à travers plein d'autres affaires, j'écoute pas juste ça, là, on s'entend. Mais j'ai encore du fun à écouter ça, puis c'est évidemment pas parce que ça me fait rire, parce que les jokes, je les connais pas mal toutes, mais à cause des souvenirs que ça évoque, puis aussi à cause du regard d'aujourd'hui
que je voulais aller là.
Face aux jokes de l'époque, j'ai toujours tendance à me dire, ça passerait-tu encore aujourd'hui, ce joke-là, ou ce sketch-là?
T'as-tu des sketchs en tête, justement?
Ah, ben il y a plein.
On frôlerait la ligne.
Non, oui, il y a des personnages qui pourraient plus exister, des personnages
de la
genre.
Quel est ton préféré?
Mon personnage préféré, je te dirais Jean-Marie Bleupart était pas mal dans le top, puis c'est pas mal de cas pour bien du monde. Je trouvais que c'était un personnage intelligent dans son délire, parce que, en fait, je trouvais que ça prenait de l'intelligence pour arriver à ce style d'expression-là.
Qui le faisait déjà?
C'est Pierre-Albert Tremblay. Avec qui je suis encore très régulièrement en contact. Je suis encore en contact avec quelques-uns des membres de la jungle encore. C'est des relations de travail qui sont devenues des amitiés. Puis c'est des choses qui sont chères pour moi. Mais c'est Pierre-Albert qui faisait ça. Des fois, on avait un flash, on y soumettait, il le prenait ou il l'arrangeait à sa façon. Puis, je trouvais ça intelligent comme humour.
Puis ton sketch préféré?
Celui où j'ai le plus ri, oui, parce que ça avait été un décrochage extraordinaire. C'était un sketch d'un personnage, d'un détective qui s'appelle Paul Trenton. Puis, qui était joué par Michel Morin. Puis nous, on jouait des petits personnages autour dans les sketchs. Mais là, on avait fait un sketch de Paul Trenton où étaient impliqués des extraterrestres. Alors, on avait une machine pour modifier les voix. Alors, Gilles Parent et moi, on était des extraterrestres, mais on n'avait pas... Tu sais, on pratiquait pas, là. Les gars écrivaient les textes la veille, puis on arrivait, puis ils nous donnaient les textes 30 secondes, on avait d'aller en onde. Puis là, on suivait le texte, puis on se débrouillait avec ça. On finissait par se débrouiller.
Mais tu savais pas trop ce que tu allais dire d'avance.
Non, puis je savais surtout pas à quoi allait ressembler ma voix avec la machine qui transforme la voix. Puis Gilles non plus. Dès qu'on s'est entendu, c'était pas ce qu'on disait, c'était le thème de la voix. Là, on s'est regardé, puis on est tous les deux pouffés de rire. Puis ça a duré tout le long du sketch.
Pas capable de jouer comme il faut.
Non, absolument pas. Absolument
ça devait être drôle pour les auditeurs aussi, par exemple.
C'est sûr que les auditeurs partageaient le fun qu'on avait. C'était communicatif, mais non, c'était vraiment un sketch où j'ai beaucoup, beaucoup ri.
Mais toi-même, t'es très drôle. Très, très drôle. Tu lâches des petites craques des fois dans l'émission, puis si on est assez aguerri, ben on va les capter entre le discours de Sylvain, Elisabeth, Jean-Simon, puis t'es toujours un peu celui qui va faire rire, alléger les choses, même si tu parles de choses très, très intelligentes au travers.
Merci.
Mais sérieusement, dans les choses qui m'ont fait le plus rire, et j'en parle souvent au FM 93, c'est dans l'un des soupers de la Guignolée, il y avait un atelier de danse, puis là, il fallait juste comme danser puis se défouler, puis je connais Vez, t'es capable de rire, t'es capable de faire des choses drôles. Mais à un moment donné, je me retourne et Vez est en transe.
Ben non.
Vez a jamais dansé comme il dansait, puis il se rend compte que ça me fait rire. Fait que là, t'en ajoutes, puis t'en ajoutes. Fait que t'es capable d'avoir une autodérision.
Ben oui, tu parles d'autodérision, puis oui, je trouve ça important. Je suis pas le genre de gars qui se prend pour un autre, au contraire. Puis je trouve que c'est... Tu sais, à un moment donné, tu viens par avoir une confiance en toi, puis c'est ça qui te permet d'avoir de l'autodérision, parce que tu sais que tu n'es pas de même vraiment. Là. Puis moi, j'ai toujours aimé faire rire, j'ai toujours aimé l'humour.
Ça marche.
Tu sais, je pense que j'ai vu plus de shows d'humour que de shows de musique dans ma vie.
Puis mettons que je le compare au sport, humour-sport, tu as vu plus de sport quand même.
Ah oui, quand même.
mais
ça me coûtait moins cher.
Mais tu aimes ça.
Oui, j'aime rire et j'aime faire rire aussi. Puis évidemment, mes 11 ans dans la jungle, ça a aidé aussi à développer ma
spontanéité,
ma spontanéité, mais ma mécanique, ma façon de faire rire le monde. Je trouve que c'est un beau moyen de communication, l'humour.
On t'a vu récemment avec les deux frères... C'est mon manque de connaissances sportives qui ressort, mais faire un topo où tu te fais un peu charouetter.
Oui, je me fais brasser par les frères Hanson. Oui.
Puis t'aimes ça faire ça? Tu trouves ça drôle d'arriver?
Ben, c'est parce que si je voulais faire quelque chose de le fun pour les téléspectateurs, c'était un reportage pour RDS, ben il fallait que j'embarque dans leur jeu, pas les faire embarquer eux dans le mien straight de reporter d'RDS à Québec. Alors, tu sais, il faut que ça demeure informatif, mais Mais il fallait que j'embarque dans leur game à eux, puis c'était pas un problème pour moi de le faire, puis ça a donné quelque chose de bien le fun, puis je suis bien content. Ça a été, je te dirais, ça fait depuis l'automne 2012 que je fais du RDS, puis je pense que c'est le reportage où j'ai le plus ri, où j'ai vraiment eu le plus de fun. Là.
Wow!
Je me suis pas embêté dans d'autres, là, mais celui-là, vraiment, ça a sorti de l'ordinaire.
Wow! Puis est-ce que tu as souvenir d'un athlète que tu as rencontré ou d'une athlète, là? Ou t'étais intimidé?
J'étais sûr que t'allais me poser cette question-là. Ça fait 3 jours que j'y pense. Tu sais, à cause de mon métier, puis c'est pas de la prétention, c'est juste que la réalité, c'est ça. Mon métier m'amène à rencontrer plein d'athlètes professionnels de tous les niveaux, amateurs, professionnels peu connus, professionnels très connus, puis grandes vedettes. J'en ai rencontré plein. Tu sais, ça fait que je me souviens pas, les premiers que j'ai rencontrés, peut-être la première fois que j'ai rencontré Wayne Gretzky à Rendez-vous 87. Je sais pas.
T'intimide pas nécessairement.
Non, il y en a plusieurs que j'admire. Tu sais, puis le fait d'en avoir rencontré beaucoup, ça fait en sorte que j'ai pas vraiment d'idole dans le sport. J'en ai eu deux quand j'étais plus jeune. Guy Lafleur puis Wayne Gretzky. Puis à chaque fois que je les rencontre, Wayne Gretzky, c'est très rare, là. Mais Guy Lafleur, ça m'arrive encore de le rencontrer régulièrement. Puis c'est toujours plaisant. J'ai découvert les Nordiques quand il était ici pendant 2 saisons à Québec. Ça fait que quand on se voit, il me reconnaît. Évidemment, moi, je le reconnais, c'est sûr. Mais tu sais, puis on placote de choses et d'autres. On parle de la vie, on parle de ce qu'il fait. Puis c'est toujours plaisant, mais tu sais, je pourrais te dire, à Rendez-vous 87, j'ai rencontré Gordie Howe. Oui, c'était un peu impressionnant, effectivement. Will Chamberlain, Pelé. Plus tard, j'ai rencontré Vladislav Tretiak.
Pardon? Oui, c'est qui, ça?
Ben, Vladislav Tretiak, pour les plus jeunes, ça a été le plus grand gardien de but de l'histoire de l'Union soviétique.
OK.
C'est lui qui a été la grande vedette de la Série du siècle en 72 contre l'équipe canadienne. Puis il est venu à Québec quelques fois. J'ai rencontré Alberto Tomba, qui était une grande vedette italienne de ski alpin, qui était passée par Québec au début des années 90, à l'époque où il était vraiment dans les meilleurs, sinon le meilleur au monde. Mais tu sais, c'est des rencontres très rapides, là. T'sais, j'ai pas eu le temps de placoter avec eux, mais juste d'avoir à les rencontrer, oui, ça peut être c'était un peu impressionnant, mais comme je te dis, j'en ai tellement rencontré, puis mon travail a fait en sorte que j'ai eu la chance, tu sais, je te parlais de Guy Lafleur puis Wayne Gretzky tantôt, de jouer au hockey avec eux. Tu sais, dans des événements impliquant des médias, là, mais tu sais, j'ai joué un match au Forum de Montréal devant 12-13 000 personnes contre Guy Lafleur et d'autres légendes du hockey. Après ça, j'ai rejoué avec lui il y a 10 ans à Lévis.
Pas une fois, deux fois, là.
Oui, deux fois. Puis Wayne Gretzky, en 93, il venait de perdre la Coupe Stanley contre le Canadien. Okay. Une couple de semaines après, il était à Québec, à Val-Bélair, pour une école de hockey. Puis ils ont organisé un match avec des médias. Puis les 6 pros qui étaient là, il y avait Gretzky, Jagr, les 2 frères Niedermayer, Denis Savard puis Mike Ritchie. Alors, ils ont séparé les 6 pros en 2. Ils ont séparé les quelques journalistes, on n'était pas beaucoup. Puis j'ai joué avec Gretzky, puis Jagr, puis un des 2 Niedermayer.
Wow, OK.
Puis j'ai compté le seul but de l'histoire sur des passes, qui a été marqué sur des passes de Gretzky. Pour vrai?
T'as-tu laissé gagner, tu penses?
Comment?
T'as-tu laissé faire?
Non. Non.
OK. Il voulait vraiment te la donner.
Oui, absolument. non, c'est des beaux souvenirs. Tu sais, puis même au baseball, là, il y a eu des matchs caritatifs de Balmol au stade municipal il y a 7-8 ans. Puis, tu sais, j'ai joué avec Pedro Martinez, Tim Raines, Moïse Alou, Steve Rogers, Warren Cromarty. Tu sais,
c'est privilégié.
Absolument. Tu sais, si j'avais un mot pour décrire ma carrière, c'est chanceux.
Si tu avais pu dire ça aussi au petit Vez, probablement qu'il n'y aurait pas cru.
Bien, le petit Vez, lui, voulait être Guy Lafleur.
Fait qu'il voulait pas en parler.
Non, il voulait le faire, lui.
Il voulait le faire.
Oui.
Ça a pas marché?
Ben non. Tu sais, j'avais un certain talent, mais pas assez pour faire carrière professionnelle, ni au baseball, ni au hockey.
Ramène-moi dans ces années-là de petit Vez, parce que pour moi, c'est des années que j'aurais aimé connaître. Vous sortiez dehors, vous alliez... C'était quoi votre routine de petit sportif comme ça?
Bien, on était toujours dehors. On jouait au hockey dans la rue, on jouait au baseball dans la rue, on jouait au football dans la rue, on appelait des chums, puis c'était pas long. Si on joignait pas tout le monde, on regardait dehors, il y en a 3-4, parfait, on les rejoint, puis on s'organise une partie de baseball ou de balle molle ou de hockey, peu importe. C'était ça. Puis l'hiver, c'était sur la patinoire de la paroisse. Non, on était toujours en train de faire du sport. Puis l'autre chance que j'ai eue, c'est qu'on était 5 gars chez nous.
L'autre chance, hein?
Mais dans le sens où c'était pas dur de se trouver des partenaires de jeu.
Ouais, t'avais...
Il était dans la maison.
Une demi-équipe, mettons.
Ouais. C'est ça. Avec mon père, c'est ça qu'on disait. On avait une ligne complète au hockey.
Oui, c'est ça.
Ça fait que... on n'avait pas long à chercher pour se trouver des partenaires de jeu. Il était dans la maison, puis il y en avait plein dans la rue aussi. Mais on a toujours fait du sport. Évidemment, à mon époque, dans les années 60-70, c'était principalement baseball, hockey. Puis à l'époque... il n'y avait pas de hockey 12 mois par année, puis il n'y avait pas de baseball 12 mois par année. Là. Mm. C'était l'hiver le hockey, puis l'été le baseball. Puis on jouait à ça toujours avec grand plaisir. Puis j'ai jamais été dans les. En fait, j'ai été comme mon père gardien de but. Mon père a déjà été gardien d'assez bon calibre. Puis j'étais juste pas assez bon pour être dans l'élite.
Je
jouais dans le A, là, pas dans le 2A, là, mais j'étais juste sur le bord. Mais c'est ça. Puis un petit peu plus vieux, j'ai commencé à jouer à défense, puis à l'avant avec d'autres équipes, dans le junior, juvénile. Puis quand je suis rentré à l'université, j'ai pris une chance. J'avais des amis qui allaient au camp d'entraînement du Rouge et Or. On va y aller, ça va être le fun, le temps que ça durera. Puis à ma deuxième année, j'ai été coupé le dernier. Puis finalement, en début de saison, ils ont fini par me rappeler. J'ai passé l'année avec le Rouge et Or an.
Wow!
C'était fun. J'ai pas joué beaucoup, mais ça a été super le fun, une belle expérience.
T'es allé en journalisme pour peut-être couvrir les sports plus que
d'autres
choses.
Oui, en fait, c'est ça. Quand j'ai compris que j'avais pas de chance de devenir athlète professionnel, je me suis dit, bon, au lieu de le faire, je vais en parler. Mm. Puis encore là, ben, il y a plein de circonstances qui ont fait que j'ai été chanceux de me retrouver à la bonne place au bon moment, à plusieurs occasions, puis d'avoir la carrière que j'ai eue.
J'enlève rien à l'attrait du sport là, qui est encore là en 2019, mais je me trompe-tu si j'ai l'impression que le sport est quand même moins, pas accessible, mais moins populaire quand même chez les jeunes. Tu sais, avant, justement, c'était facile. Tout le monde, c'était le jeu de prédilection chez une certaine jeunesse. Là. Puis maintenant, ben, y a tellement de choses, puis d'autres stimuli, puis tu sais, web, tout embarque là-dedans. J'ai l'impression qu'on laisse moins de place au sport, outre que juste le jouer, mais je veux dire, dans l'admiration, puis le vouloir en connaître, puis triper là-dessus.
Oui.
Le sens-tu?
Oui, puis peut-être que les... Tu sais, on est à une époque où, tu sais, les sports extrêmes, tout ça, prennent peut-être un petit peu plus de place. Fait que les sports plus traditionnels sont moins attirants pour les jeunes parce que c'est pas assez extrême pour eux. Donc, c'est moins sexy. Mais, tu sais, pour ma génération, là, le baseball, le hockey, le football, c'est encore les sports les plus attirants pour lesquels on a le plus d'intérêt.
Ça te dérange-tu de voir ça, qu'il y a quand même un attrait qui est moindre qu'avant?
Non, ce qui me dérange, c'est que c'est peut-être moins accessible pour les gens de mon âge. Là, je regarde des matchs à télé, ça, puis j'écoute ce qui se passe dans les arénas, là, puis tabarouette que je ne triperais pas dans un aréna de la Ligue nationale, l'aréna junior. Je trouve qu'il y a tellement de vacarme là-dedans, puis c'est des concours de DJ, puis on peut-tu pousser le piton le plus loin possible pour enterrer le monde, puis c'est rendu des discothèques, là. Moi, je suis un vieux traditionnaliste dans le sport. T'sais, j'aime ça encore l'orgue. Oui, je comprends, il peut y avoir de la musique plus rythmée puis tout ça pour embarquer les gens, mais je trouve que, particulièrement au hockey, tu jases pas pendant le jeu. Parce que t'es trop captivé par le jeu, t'es trop captif. T'es en train de regarder le jeu, tu peux pas rien manquer, là. Alors, dès qu'il y a un arrêt de jeu, c'est là que tu donnes un coup de coude à ton voisin. Hey, t'as-tu vu tantôt le tel jeu, nanana, tel gars, la mise en échec, la belle passe, le beau lancer, le bel arrêt? Tu peux plus faire ça. Tu te fais enterrer par le vacarme.
Mm.
Ben, moi, je trouve ça trop. Évidemment, les plus jeunes, ils trouvent pas ça. Puis je comprends l'écart de génération.
Mais ils ont
là.
Juste vécu ça aussi, le DJ.
Mais aussi. Puis même, même les matchs à télé, souvent, dépendamment comment le son est mixé par le producteur, là, des fois, je trouve ça lourd à entendre, le match.
Mm.
Des fois, je vais baisser le son pas mal. Puis je trouve ça plate parce que souvent, je manque des bons commentaires des analystes. Mais je suis tellement plus capable d'entendre le boum-boum des DJ dans les arénas, là.
Puis en plus, tu m'ouvres une porte parce que t'es très, très nostalgique, tu sais, de ça. Toi, c'est les vieilles chansons françaises, les vieux films français. Des fois, tu sors des blagues.
Tu vas être de même quand tu vas avoir mon âge.
Tu penses?
Ben oui, mais pas avec les mêmes artistes, mais avec les artistes d'aujourd'hui.
Mais t'es plus nostalgique que la moyenne. Tu adores encore le bon français, les bonnes chansons qui ont été travaillées. Tu te colles moins à ce qui se fait maintenant.
Tu sais, un peu comme dans Bouffe tantôt, je disais, j'étais pas très essayeux puis aventurier. Ben, tu sais, j'aime ça me retrouver dans mes affaires, puis je suis bien là-dedans, puis c'est comme mes repères, tu sais. C'est comme ma doudou, là, tu sais. Puis j'écoute encore Aznavour régulièrement, puis Lama, puis Dassin, puis les Beatles, puis. Puis Billy Joel, puis tu sais, les vieux artistes des années 70-80. Oui, je suis ouvert à d'autres choses parce que j'ai plein d'artistes beaucoup plus contemporains dans mon téléphone.
Mais Jean Leloup, je t'ai jamais entendu parler d'un artiste comme ça, mettons des années 80-90, qui a marqué l'histoire musicale. T'es plus loin encore.
Ouais, mais je sais pas.
C'est réconfortant.
J'aime encore ça, puis en tout cas, moi, je trouve que. Tu sais, je te parlais de l'intelligence des gags de Jean-Marie Bleu-Paul. Je trouve que il y a plus d'intelligence dans les textes des chansons d'autrefois. Évidemment, tu vas me dire, les Beatles, ça volait pas haut des fois. Là, nous vivons tous dans un petit sous-marin jaune. C'est pas super brillant, mais c'est une exception. Là. Tu sais, mais tu parlais de la chanson française. Oui, effectivement, si tu prends la peine d'écouter du Aznavour, du Sardou, c'est tellement brillant comme texte. Jacques Brel, même si souvent je trouve ça très rabat-joie, là. Tu sais, c'est pas hop la joie, là, souvent, Jacques Brel. Mais j'admire encore, puis j'apprécie encore l'intelligence des textes.
C'est qui ton artiste de tous les temps, ton préféré?
Seigneur, c'est comme au hockey, ça. Comme dans le sport, c'est qui mon idole? Aznavour, Lama, c'est pas mal mes tops. Là.
Pourtant, c'est deux hommes très romantiques dans leur parle d'amour. On parle d'amour, envoie la romance, la femme qu'elles adorent, ou les femmes qu'elles adorent.
Ben, en fait...
Tu me vois venir?
je te vois venir pas mal.
Tu m'arrêtes avec un crayon.
Les chanteuses chantent ce qu'elles voudraient se faire dire. Les chanteurs, comme Lama, Aznavour, Sardou... chante ce que les hommes voudraient dire aux femmes. Et moi, j'ai eu des blondes, là, mais c'est... Tu sais, je suis pas... eux disent des affaires que moi, j'aurais aimé dire.
T'aurais pas pu le
chanter. Que j'ai pas osé, mettons.
Ça te gênait.
Ben oui, je suis un gars timide dans la vie, honnêtement.
Ça paraît pas. Fait
non,
c'est vraiment
je sais,
en amour.
Ben
c'est dans cette strate-là, dans cette sphère-là de ta vie que c'est plus... Peut-être où ta gêne sort plus.
Ouais. Oh, oui. Ben, en radio, c'est... Tu sais, oui, tu... Il y a beaucoup de toi, il y a aussi un peu de personnage Vez, là. Un peu comme tout le monde qui fait de la radio, puis un peu comme tout le monde qui est sur scène aussi. Les artistes, souvent, deviennent artistes pour dire des choses qu'ils sont pas capables de dire dans la rue, mettons. Ou dans l'intimité avec quelqu'un.
Mais est-ce que tu rêves de cette romance-là, quand même, que les chanteurs que tu préfères chantent?
Oui, j'y rêve. c'est pas... Mais honnêtement, ça fait longtemps que je suis célibataire. Puis je suis tellement bien de même. Là.
Ah, t'aimes pas ça, à te faire dire. Pourquoi t'es tout seul?
Ouais, c'est ça.
Il y a des dames qui nous écrivent, là, des fois, pour qu'on te planifie des dates avec elles. Puis c'est des beaux messages. C'est pas déplacé. C'est pas des femmes qui ont l'air.
Oui, je suis d'accord. Puis ça me touche. Je trouve ça gentil.
Mais tu donnes pas.
Mais
je donne pas de réponse.
Tellement bien tout seul. Là.
Tu fais pas vieux jeu ou vieux rabat-joie, ça. Pourtant, c'est pas toi, pantoute. Mais...
Ben, moi, j'ai toujours pensé, comme bien du monde, que t'es mieux tout seul que mal à côté, là.
Oui, mais si tu t'accotes jamais ou tu ne l'as jamais t'accoté.
Non, ben, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe jamais rien. Ça, c'est une autre affaire.
OK, je vais l'isoler pour le show du matin aussi.
mais honnêtement, là, quand je suis écrasé chez nous devant la TV à regarder un match de sport ou n'importe quoi d'autre, j'aime ça avoir de la visite, là, mais il faut qu'elle parte. J'endurerai pas quelqu'un en permanence dans mes affaires. Tu sais, ma maison, partout, c'est moi. D'avoir quelqu'un dans mes affaires en permanence, j'aurais de la
même
misère.
Même quelqu'un que t'aimes, là. Ouais. Tu sais, il y a des personnes où...
Une fois de temps en temps,
puis d'autres qu'elles viennent à n'importe quand.
Mais je suis pas fermé à ça. C'est juste que je suis peut-être devenu très, très, très capricieux ou exigeant, appelle ça comme tu voudras. Puis ça a juste comme pas à donner. Puis De nature, je ne suis pas un gars très sorteuse. Fait qu'évidemment, les occasions de rencontre ne sont pas très nombreuses non plus. Alors,
ouais, tu ne seras pas sur Tinder.
Non, c'est pas tellement mon genre, effectivement.
Mais c'est juste que je trouve ça contradictoire avec ta personnalité, qui est cet élément-là où tu es donc bien, bien seul dans tes affaires. Parce que souvent, ce sont des gens qui ne sont pas nécessairement très intéressants à côtoyer. Tandis que toi, c'est totalement le contraire.
Ouais. Mais non, moi, j'aime mieux avoir de très bons amis que d'avoir des amours de passage, mettons.
Ah, oui, mais...
Puis ça, pour ça, tu sais, ma famille d'abord, mais mes amis aussi, j'en ai plusieurs, des très, très bons amis. J'ai ma gang de chums depuis toujours, puis plusieurs autres aussi. Puis non, ça, je retire beaucoup de satisfaction de ça, puis je sens pas le besoin... C'est pas un besoin pour moi d'être en couple.
Non, la porte est pas grande ouverte, mais t'as quand même une feuille de papier qui te permet de pas la fermer complètement.
C'est ça, puis...
l'image est bonne, je pense.
Celle qui veut prendre une chance et...
Couche-toi de bonheur.
Est mieux d'avoir juste des belles qualités.
Franchement, c'est... parce que toi, t'es un être que de qualité,
ben,
tu comprends.
C'est sûr, j'ai pas de défaut.
Mais non, c'est pas de bon sens, tu sais, pour trouver une femme comme ça aussi.
Oui.
En terminant, Vez, qu'est-ce qui te manque à faire ou encore qu'est-ce que tu dis, hey, ça, faut que je me garde du temps dans ma vie pour le faire?
Tu sais, je suis rendu à un âge où des fois, tu fais un petit bilan, là, puis je me disais, crime. Tu sais, puis j'ai vu mon frère partir, mon père partir, puis je me disais, tu sais, à un moment donné, un jour, ça va être à moi. Puis j'ai des amis, malheureusement, qui sont décédés à peu près à mon âge, puis ça donne un coup, puis ça t'amène à réfléchir, puis à faire un bilan de temps en temps, puis je me dis, si malheureusement je partais là, crime, je pourrais dire que j'ai une tabarouette de belle vie.
C'est comme si tout avait été accompli, ce
ben,
que tu souhaitais.
Pas tout, parce qu'on veut toujours accomplir d'autres choses, mais je pense que j'ai fait pas mal plus, puis j'ai trippé pas mal plus que la moyenne du monde.
Ça te fait pas peur, donc, la mort?
Non, ben oui, parce que ça me tente pas pantoute, là.
Non, c'est ça, mais ça...
Mais non, en fait, ça... Comment je dirais? J'aurais pas de regrets.
Mm-hmm.
Mais oui, j'ai peur de la mort comme bien du monde, parce que je ne sais pas ce qu'il y a après, puis ça me tente pas. Je suis pas rendu là. J'ai encore plein d'affaires que je veux faire, plein de gens que je veux voir et revoir. Puis, mais le jour où ça va arriver, je vais me dire, tabarouette, j'ai eu du fun. Puis mon but dans la vie, c'est juste ça, d'avoir du fun. Dans ma job, avec mes amis, dans tout ce que je fais, dans le sport, parce que je fais encore du sport, puis j'ai fait du sport de compétition, baseball, hockey, où là, il fallait que tu gagnes. Puis à partir du moment où j'ai arrêté de faire ça dans les années 80, j'ai fait du sport juste pour avoir du fun. Je me sacrais bien gagner ou perdre. Je veux avoir du fun, puis c'est ça ma victoire.
Hey, c'est rare, ça. C'est rare, souvent, quand tu as connu le compétitif, puis que tu as été un peu compétitif, de tomber dans « Hey, c'est juste du fun, là, je m'amuse. » Puis dans plusieurs sphères de ta vie aussi, tu as eu un lâcher-prise, là. Quand ça devenait, bon, juste du fun, là, au plaisir.
Oui, mais... Tu sais, à un moment donné, sans t'en rendre compte, ça t'obsède un peu, tu sais, d'être obligé de gagner, tu sais, comme joueur, comme coach. Puis, à un moment donné, quand t'as plus cette obligation-là, parce que c'est pour ça que t'es là, quand tu fais du sport d'élite, juste le faire pour le plaisir, là, tu fais tabarouette, puis t'es comme moins pris, puis... Tu sais, tu te laisses aller, puis t'es comme... Je pense que tu deviens meilleur. Parce que tu le fais pour la bonne raison.
Avec l'état d'esprit.
Ouais. Puis je peux comprendre que pour les jeunes aujourd'hui qui font du sport, puis qui veulent, tu sais, qui rêvent de faire une carrière, ils le font avec peut-être un peu moins de fun parce qu'ils sont obligés de gagner, sont obligés de performer, ils sont obligés de prouver qu'ils ont leur place. Je trouve que les dirigeants oublient un peu trop de leur rappeler « Hey, n'oubliez pas d'avoir du fun. » C'est important parce que tu peux pas performer autant si tu n'as pas de fun.
Je te suis.
Ben, moi aussi.
Je te suis. Belle leçon de vie. Et merci, mon ami Pierre.
Ah, c'est qui ça?
C'est qui ça? Je sais pas moi non plus. Et quand ils disent « Hey, salut Pierre. »
Je me retourne pas. C'est pas moi.
Tu te retournes même pas toi-même.
Non, ça m'arrive. Mais ça me... De m'entendre appeler Pierre, ça... Il faut que je réalise que c'est moi.
Je le confirme. Okay. Pierre Vézina. Merci, mon ami. C'est très apprécié.
Plaisir.